5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Alors c'est la rentrée, Orion Chemin de l'Espace est fidèle au rendez-vous hein, pour cette nouvelle saison consacrée à l'actualité spatiale. Hein. Et cette année on vous propose chaque mois de faire un petit bilan de l'actualité, des faits marquants, voire des grandes opérations ou des événements, et il y en aura certainement cet hiver. Par rapport au lancement, aux satellites, aux sondes, à l'ISS, etc. Enfin, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses au-dessus de nos têtes, et même si nous sommes en vacances, eh ben, les puissances spatiales continuent à envoyer des satellites dans l'espace, des hommes aussi, hein, donc comme vous l'avez dit, on parlera de l'ISS. Hein, et donc, toute cette actualité, ça bouge beaucoup, et nous en avons les applications quotidiennes sans nous en apercevoir.
Voilà, et chaque fois que l'actualité se présentera, ben nous prendrons le temps effectivement de vous présenter les événements les plus importants. On prévoit bien entendu la pose de Rosetta sur sa comète, et puis il y aura le départ de Thomas Pesquet, le prochain Français à partir dans l'espace.
Au mois de novembre.
Donc voilà, et puis il y aura d'autres événements. Donc l'actualité, on les passe en revue, des brèves, des petites rubriques, et peut-être, chaque fois que l'actualité le permet, de prendre le temps sur un sujet un peu plus de fond. Alors, ce mois-ci, ce mois d'août 2016, a été marqué par un certain nombre de choses. Il y a eu d'abord des anniversaires.
Alors, des anniversaires, oui, on va dire sur l'année 2016, parce que, alors, on va reculer de deux mois, le 20 juin donc 1996, il y a 20 ans, la navette Columbia quittait le centre spatial Kennedy en Floride, donc, pour les missions STS, donc Space Transport Spatial, hein, donc la mission 78. Et pendant 16 jours sur orbite, l'équipage procéda à de nombreuses expériences scientifiques. Et donc là, il y avait le vol donc du Français Jean-Jacques Favier, hein, donc qui est un des astronautes français très peu connus, hein, puisque vous voyez, il a fait un vol très court, ça a été son seul vol, et c'était un
vol relativement court d'ailleurs.
Oui, oui, là, voilà, donc un vol d'un scientifique. Hein, oui. Là, donc l'espace spatial européen avait choisi d'envoyer un scientifique, donc Jean-Jacques Favier, qui est de formation scientifique, ingénieur, docteur en physique et métallurgie, était pour cette mission spécialiste de charge utile. Il avait la responsabilité d'accomplir, donc comme tous les astronautes, de nombreuses expériences scientifiques.
Voilà, donc série d'expériences qu'il a menées pendant 11 jours. Donc.
Voilà, une mission complète qui a duré 18 jours.
96, il y a 20 ans déjà.
Il y a 20 ans.
Et donc, il y a 20 ans aussi, une autre Française qui était partie.
Oui, alors je veux juste terminer sur Jean-Jacques Favier, parce que dire qu'il n'a plus fait de vols spatiaux, mais aujourd'hui, il est cofondateur d'une société Blue Planet, projet de surveillance des images de la Terre, et il est professeur à l'International Space University à Strasbourg.
Très bien. Donc, bon anniversaire, Jean-Jacques Favier.
Voilà.
Et donc, je viens maintenant à cette Française qui, elle aussi, il y a 20 ans, est partie dans l'espace.
Alors là, on est vraiment dans la période, puisque c'était du 17 août au 2 septembre 1996. Donc, Claudie Aigneret, à l'époque qui s'appelait Claudie André Dehay, donc devenait la première Française dans l'espace en séjournant deux semaines à bord de la station russe Mir. Donc, on n'avait pas encore l'ISS, hein, c'était la station Mir. Et de là-haut, elle a accepté d'être la marraine de la Cité de l'Espace, qui ouvrit ses portes en 1997.
Donc, ces deux cosmonautes sont assez visibles. Vous les rencontrez parfois, assez souvent d'ailleurs, régulièrement, à la Cité des Sciences.
À la Cité de l'Espace à Toulouse. Hein, vous voyez, parce que, comme je viens de le dire, donc Claudie Aigneret est marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et si vous allez à Toulouse, vous avez une copie à grandeur nature du vaisseau Soyouz. Et à l'intérieur, il y a une petite marionnette, un petit doudou, donc qu'elle a offert, parce que ce petit doudou est allé dans l'espace. Donc vous savez que les Russes, quand ils veulent, pour vérifier qu'ils sont en état d'impesanteur, ont ces petites marionnettes qui se mettent à voler lorsqu'on a atteint l'orbite. Donc c'est une petite marionnette, un petit doudou, on va dire, un petit nounours, hein, qui est à la Cité de l'Espace, et lui, il est allé dans l'espace, et merci à Claudie Aigneret.
Et il rend service sans électronique.
Sans électronique, voilà.
Thank you.
Claudie Aigneret, qui est partie donc il y a 20 ans, elle est partie sur une mission un peu différente de Jean-Jacques Favier, et elle est restée plus longtemps aussi.
Donc c'était la mission Cassiopée en 96, donc le 17 août, donc jusqu'au 2 septembre. Oui, c'est pas guère plus long, hein. Mais donc elle est partie donc à bord du Soyouz avec les Russes Valery Korzun et Alexandre Kaleri. Donc direction la station spatiale Mir, où elle a procédé à plusieurs expériences scientifiques comme tous les astronautes. C'était le 5e vol habité franco-russe et le premier pour une Française, puisque Claudie est la seule astronaute femme française.
C'était pas la première femme dans l'espace.
C'était pas la première. Entendu, oui, Valentina Tereshkova. Voilà. Donc oui. Donc et au cours de cette mission, elle accepte la proposition du maire de Toulouse à l'époque, qui était Dominique Baudis, et elle devient la marraine de la Cité de l'Espace, qui a ouvert ses portes en 1997. Alors cette Cité de l'Espace, qui a déjà une vingtaine d'années, hein, donc où,
qui propose
bientôt,
régulièrement de nombreuses
animations. De nombreuses animations, c'est là, dans ces lieux-là que j'ai pu rencontrer donc Claudie Aigneret. Hein,
alors le prochain rendez-vous, Jean-Michel, justement, que vous ne manquerez pas.
Hein, justement, puisque du 4 au 8 septembre l'année prochaine, donc en 2017, il y aura dans cette même Cité de l'Espace le congrès mondial des astronautes. Donc déjà, on peut noter que des astronautes célèbres sont inscrits, Buzz Aldrin, Alexei Leonov, bien sûr Claudie Aigneret participe beaucoup à l'organisation. Donc, et puis 97-2017 sera les 20 ans de la Cité de l'Espace.
Voilà, alors c'est quand même un rendez-vous important parce qu'ils sont nombreux, tous ces cosmonautes, astronautes, spationautes.
Spationautes, taïkonautes, du monde entier, oui, ils sont nombreux. Alors je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui ont déjà donné leur accord. Bien sûr, il y aura les Français, hein, donc nos 10 Français, j'espère qu'ils seront tous présents, hein, parce que souvent ils ont quelques empêchements, ils ont beaucoup de missions.
Ceux qui sont partis et celui qui va partir.
Et celui qui va partir, qui sera revenu. Voilà, puisque on en reparlera le 16 novembre.
Donc c'est un rendez-vous important, on peut rappeler la date.
Donc du 4 au 8 septembre 2017.
4 au 8 septembre, donc dans un an, pour dans tous ceux an. Que l'espace intéresse, c'est un vrai rendez-vous.
Voilà. Oui, c'est un vrai rendez-vous. Bon, je peux vous dire que je l'ai déjà noté sur mes tablettes.
Voilà, voilà. Alors, pour nos auditeurs, je pense qu'il y en a un certain nombre que ça peut intéresser.
Oui, mais
c'est...
nous aurons l'occasion de le rappeler.
Et c'est en France.
Nous aurons l'occasion de le rappeler dans les chemins de l'espace. Et donc, il y aura des possibilités de rencontres, des contacts avec le public, même s'il y aura beaucoup de monde, hein, parce que je pense qu'un événement comme ça, c'est pas courant en France. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'espace, notez-le.
Le rendez-vous est pris. Alors, dans l'actualité spatiale, il y a eu des anniversaires, il y a eu aussi un certain nombre de lancements, comme chaque mois d'ailleurs, parce que ça bouge beaucoup du côté des lancements. Alors, ce mois-ci, quels ont été les lancements des uns et des autres?
Alors, je vais vous parler donc de la Chine, puisque la Chine est une puissance spatiale importante. Et une question qui s'est posée, la Chine va-t-elle révolutionner les communications par satellite? Tout simplement parce que le 15 août à 17h40, les Chinois ont lancé, donc grâce à une fusée Longue Marche, un satellite de télécommunication expérimental. Donc il s'appelle Quantum Experiment at Space Scale, ce qui veut dire que c'est des expériences quantiques à l'échelle spatiale. C'est-à-dire que c'est une nouvelle transmission de données avec des photons, hein, donc des données quantiques, c'est la première fois. Donc ces expériences avaient été déjà faites sur quelques centaines de kilomètres sur Terre, mais aujourd'hui, ça y est, nous en avons l'application dans l'espace.
Donc une application de la physique quantique, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait c'est une technologie révolutionnaire.
C'est révolutionnaire. Donc alors, ce petit satellite de 600 kilos, hein, il est surnommé Micius, d'après un philosophe et scientifique chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. qui aurait conduit les premières observations optiques au monde. Hein. Donc ce satellite est basé sur une technologie issue de la physique quantique, donc c'est une première mondiale. Hein. Les photons sont utilisés pour transférer l'information instantanément et de façon totalement sûre, ce qui veut dire qu'aucun photon ne peut être intercepté. Donc ouais. Là, ça laisse la place à du secret, à tout ce que l'on veut.
D'accord. Donc, en fait, c'est ça. C'est la sécurité, la sûreté, effectivement, ouais. Des transmissions et l'efficacité, je
voilà.
pense. Donc, alors, c'est un vrai pas en avant le jour où on maîtrise bien cette...
Le jour où on maîtrisera, parce qu'on ouais. On précise bien que c'est expérimental.
Ouais.
Hein, c'est un test. Donc, les premiers signaux ont été reçus. Donc, ça a l'air de fonctionner, d'après la communication de l'agence chinoise. Donc, il faut voir dans l'avenir qu'est-ce que ça va donner. Il est sûr à parier que, bien sûr, les puissances comme les USA ou la Russie vont répliquer très rapidement avec des technologies similaires.
Bon, sur les résultats, bon, on ne s'attend pas non plus qu'ils fassent le jour sur toutes les forces et les faiblesses de leur lancement.
Non, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, qui nous interroge, et de voir que ça va très très vite, la vitesse de la lumière.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Quantum par quantum. Qu'est-ce que... Voilà, et donc c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire. Les expériences sur Terre préalables qu'on évoque, donc chez les Américains, les Européens.
Alors, des expériences de transmission au sol qui ont été faites, mais bon, donc là, pour l'instant, moi, j'ai pas trop d'informations, donc effectivement, il faudra aller les rechercher. Je pense qu'on doit retrouver sur les agences spatiales, sur des sites internet spécialisés, quelques infos.
Donc, on suivra ça de très près.
On suivra ça de très près au cours de l'actualité spatiale, de voir ça marche, ça marche pas.
Alors après les lancements chinois un peu révolutionnaires, du côté des États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé en matière de lancement?
Alors chinois, on a dit 15 août, 19 août, à 4h52, une fusée Delta 4 donc américaine a lancé deux satellites GSSAP, alors le 3 et le 4, qui sont géosynchrones, c'est-à-dire qu'ils tournent en relation avec le Soleil. Et donc c'est pour l'US Air Force, Space Command, donc la surveillance des biens américains en orbite géostationnaire, c'est-à-dire surveillance d'autres satellites, surveillance de débris spatiaux. Donc là, on est dans le domaine du militaire, de la surveillance. Donc, les Américains retransmettent en direct ces lancements. Et donc, dès l'ouverture de la coiffe, on n'assiste plus au lancement puisque c'est du secret.
D'accord.
Il y a des satellites, les lancements, on peut les suivre en continu.
En particulier, les lancements d'Ariane.
Les lancements, tout à fait.
On peut peut-être souligner ça pour les amateurs.
Oui, oui.
Donc, chaque fois que vous pouvez vous inscrire sur le site de
l'ESA, Vidéo Corner. Hein,
voilà, Vidéo Corner, de manière qui vous tient informé des lancements. Il y en a régulièrement et ils vous disent à telle heure, on prévoit de lancer. Voilà. Alors après la Chine, Jean-Michel, les États-Unis, L'Europe, un petit
bien
cocorico.
Sûr.
Donc l'Europe, c'est avant tout Ariane qui lance beaucoup et pour beaucoup de gens. Donc que s'est-il passé ce mois d'août 2016?
Donc ce mois d'août, donc le lancement de deux satellites Intelsat. Donc Intelsat 36 qui fait 3 tonnes 400. Donc c'est pour la TVHD, donc pour l'Afrique.
Donc télévision, meilleure couverture ou couverture, nouvelle couverture en tout cas,
voilà,
télévision
sur l'Afrique.
Sur l'Afrique.
Voilà. Et en même temps, donc dans la même coiffe, sous la fusée, il y avait un autre satellite de 6 tonnes. Donc vous voyez que la capacité de lancement d'Ariane, on arrive presque à 10 tonnes. Hein. Donc Intelsat 33-1, qui va couvrir des télécommunications sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Donc télécommunications en général et puis communications aussi pour des entreprises.
Donc là, c'est un satellite géostationnaire.
Géostationnaire, voilà.
Alors, on peut dire un mot sur ce type de satellite, leur altitude
36 000 km.
36 000 km
voilà.
De la Terre,
voilà.
Donc c'est à la limite de l'atmosphère, on va dire.
Oui, bien haut, là haut, hein, 36 000 km, c'est très très haut.
Voilà.
Hein, donc.
Et surtout, ce qui les caractérise, c'est que leur orbite est relativement stable.
Relativement stable.
Voilà,
hein,
ce sont donc des satellites qui restent sur un point fixe.
Par rapport à la rotation de la Terre.
Voilà, c'est ça.
Donc,
alors que le premier, le satellite de télécom, lui, va être beaucoup plus mobile pour couvrir.
Voilà, il y a donc, si vous regardez le ciel étoilé le soir,
voilà,
vous verrez tous ces petits points lumineux qui tournent un petit peu dans tous les sens. Donc, eh ben, il y en a à toutes les altitudes. Il y en a, donc, on va dire, la station spatiale est à 400 km, mais on a eu parlé de ces petits satellites, les CubeSat et TubeSat qu'on lance en dessous. Et alors, après, on va monter, donc, sur l'orbite 600-800 km est très très chargée. Et puis après, on va monter plus haut. 23 000, c'est les GPS et 36 000, les géostationnaires.
Et après les lancements, les anniversaires et les lancements, il y a l'actualité à bord de l'ISS. Il se passe toujours quelque chose à bord de l'ISS. Et là, je crois qu'il s'est passé là aussi un certain nombre de choses, puisque les Russes préparent un peu l'avenir. C'est ça qu'il faut comprendre.
Beaucoup de choses. Il se passe donc avec ces cinq hommes et une femme qui sont là-haut en orbite, à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc les Russes préparent l'avenir. Donc cette station spatiale, les puissances qui contribuent à ça, les plus gros contributeurs, ce sont les États-Unis et la Russie, l'ESA vient en troisième position. Donc on a prolongé jusqu'en 2024. On a les financements, les États ont donné leur accord jusqu'en 2024. Qu'en sera-t-il en 2024? On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être on poursuivra, peut-être les gens diront, bah d'accord, on poursuit, hein, parce que cet immense mécano, je le rappelle, de 400 tonnes, de la taille d'un terrain de foot, donc il fait le tour de la Terre en 1h32 minutes.
Voilà, un ensemble de modules mis en place par un certain nombre d'États.
Tout à fait.
Ouais. Et donc, il y a des domaines russes. On rappelle qu'ils sont partagés, tous ces espaces, mais ils sont quand même propriétaires.
Alors, sur une grande poutre, il y a une grande poutre métallique. Hein, qui fait 109,50 m, qui s'appelle le Vetrus. Et là-dessus, il y a un nœud. Et donc, d'un côté, il y a les modules russes, donc Zaryaz, Webda. Et du côté américain, ben, il y a le modèle Unity, comme il dit, pour faire le nœud. Hein, et puis Harmony, Destiny, le module Kibo, qui est japonais, le module Columbus, qui est européen. Et puis plein de petites choses qui ont été rajoutées. On avait parlé, souvenez-vous, de Big Love, cette station gonflable aussi.
La station
qui est
gonflable qui est venue, donc
voilà,
un module original.
On rajoute plein de choses.
C'est le camping dans l'espace,
voilà.
Un petit peu ça.
Voilà.
Et alors donc, cette Russie, enfin, la Russie, prépare l'avenir dans le sens où elle prépare de nouveaux modules, c'est ça ?
Alors tout à fait. Donc du côté russe, donc sur ces modules Mazaria Zvezda, les Russes sont en train de construire des petites parties qui donc issues de leur technologie, hein, tout ce qu'ils ont fait depuis Mir. Hein, ils ont une bonne maîtrise du spatial. Donc ils vont lancer à fin 2016 un premier module et puis 2017 pour faire à peu près entre 3 et 4 modules assez habitables, donc pour prévoir l'avenir après 2024. Et si on décidait à 2024 de détruire la station spatiale, et comme Mir de la précipité dans le Pacifique Sud, alors comment ça se passera? C'est un énorme défi technique. Les Russes ont déjà envisagé de décrocher ces 3 petits modules qui sont là-haut et d'en faire une station autonome.
Et d'en faire une... À eux. Et ce mois-ci, donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ce mois-ci, les Russes, ils travaillent de leur côté, mais si vous voulez, il y a des sorties russes, des sorties américaines, des sorties européennes aussi. Donc, on appelle ça des EVA extra-vehicular activity. Et le 19 août, Kat Rubins, donc la seule femme qui est dans l'ISS actuellement, avec son collègue Jack William, ont réalisé la 36e sortie donc sur le module Harmony. Hein. Donc, ils ont fait un adaptateur d'amarrage avec donc de nouveaux ports pour accrocher donc les vaisseaux futurs. Notamment, on parle de la capsule Dragon qui ravit de la société SpaceX, qui ravitaille l'ISS. Donc voilà, prévoir un deuxième port d'amarrage.
Voilà. On rappelle que aujourd'hui, pour monter des hommes ou des femmes dans l'ISS, seule la capsule Soyuz est
tout à fait,
hein, est opérationnelle.
C'est le seul véhicule opérationnel. Donc les Américains sont totalement dépendants de ce vaisseau Soyuz. Donc là, on va pouvoir détailler, hein, si vous le voulez.
Ouais. On suivra ça en détail le moment venu.
D'accord. Ouais, parce que...
Alors, les Russes préparent l'avenir. Les Américains ont fait ce mois-ci une sortie, donc à 2 cosmonautes, pour installer le port d'amarrage. On est à combien de sorties? C'est quelque chose de fréquent?
Oui, alors je peux vous dire, depuis que l'ISS, donc 124 astronautes auront effectué 1210 heures et 46 minutes au cours de 194 sorties depuis 1998. Donc vous voyez que dans l'espace, elle est sortie, elle dure pas 10 minutes. Hein.
Voilà, mais c'est quand même une opération plus que délicate, puisque
c'est très délicat.
C'est relativement long, il faut se préparer, il faut sortir, il faut assurer.
Il y a toute la préparation qui est longue. Vérification, ils ont un ordinateur sur le ventre, enfin vous voyez, il y a des tas de choses hein, comme ça. Donc, et actuellement, on peut dire que sur cette station, il y a 5 engins qui sont stationnés sur l'ISS. Il y a 2 Soyuz, 2 cargo ravitailleurs Progress et une capsule Dragon.
Eh bien, actualité riche quand même ce mois-ci, même si c'est les vacances pour beaucoup d'entre nous. Dernière chose, la rotation d'équipage, la prochaine rotation d'équipage est prévue en fin d'année.
Alors, pour notre Français, Thomas Pesquet.
Pesquet en fera partie.
C'est prévu le 16 novembre.
Le 16 novembre. Donc, on rappelle qu'il y a toujours 6 personnes, enfin toujours, en principe, 6 personnes, et qu'à chaque fois, c'est un demi-équipage.
Tout à fait. 3 qui redescendent. Donc, pendant une courte période, il reste à 3, et puis il y a un relais donc de 3 autres qui rejoignent la station pour des missions de 5 mois et demi, 6 mois.
C'est encore l'été, vous pouvez dans les soirs d'hiver observer et voir assez régulièrement l'ISS passer, hein, la station spatiale. Elle brille beaucoup, elle traverse le ciel assez vite. On peut donner quelques...
28 000 km/h.
Quelques consignes, oui.
Oui. Il y a d'ailleurs un petit panneau amusant qui est dans la station, speed limit, 28 000 km/h, donc vitesse limitée, mais bon, c'est pas eux qui maîtrisent.
C'est contrôlé quand même.
Voilà, il y a des radars là-haut, mais enfin, pas pour les mêmes raisons. Voilà, mais beaucoup de choses. Nous avons fait une petite sélection. Il y aura encore beaucoup de choses à dire.
Voilà,
mais...
voilà. Le mois prochain, nouvelle actualité, nouveaux événements. Jean-Michel sera là pour nous commenter tout ça. Donc, voilà. À bientôt. Un mot quand même pour terminer, de rappeler quand même le site d'Orion et puis le site de l'ESA, qui quand même, on a parlé tout à l'heure du suivi effectivement des lancements, par exemple.
Hein. Alors vidéogrenaire.tv, le site de l'ESA, ESA. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aller sur le CSG, hein, vous tapez CSG Guyane.
CSG Guyane.
Oui, Centre Spatial Guyanais. Voilà. Là aussi, vous allez trouver des informations. Donc notre site internet www.orion43.fr qui va évoluer dans les mois qui viennent. Donc, mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler.
Et nous répondrons à toutes vos questions. Bonsoir.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.